Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. La Banque de France, tout le monde connaît au moins de nom cette institution très ancienne de notre pays, mais combien parmi nos concitoyens connaissent vraiment son rôle, ses missions et ses activités, de même que son organisation sur le territoire français? Il se trouve que la Banque de France possède des succursales régionales et que son action, ou plutôt devrais-je dire ses actions, sont très diverses et en font un acteur essentiel de la vie économique nationale. Qu'en est-il précisément en France en général, dans la région Occitanie et la métropole toulousaine en particulier? Quels sont son champ d'action, les services qu'elle propose? Métropolez-vous avait vocation à vous les présenter. C'est pourquoi tout le programme de ce numéro est dédié aux missions et aux activités de la Banque de France en Occitanie. La Banque de France en Occitanie a un directeur régional, il s'appelle Maxime Maury, et il a eu la gentillesse d'accepter l'invitation de Métropolez-vous à venir nous présenter l'établissement qu'il dirige, ses missions et ses services. Merci beaucoup monsieur le directeur et bienvenue à vous aussi. Je disais il y a quelques instants que la Banque de France était une institution très ancienne de notre pays. Pour faire un peu d'histoire, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelle année elle a été créée, pour quelles raisons à l'époque, et puis évidemment ce qu'elle est devenue depuis?
La Banque de France a été créée par Napoléon Bonaparte, premier consul. Donc vous voyez, nous sommes une institution très ancienne. Elle a été créée pour généraliser l'émission des billets de banque et soutenir l'économie. La date clé est la nationalisation à la Libération. Nous sommes une institution de la République française. Notre seul actionnaire est l'État. Mais ce qui n'est pas facile à comprendre, c'est que nous sommes aussi une institution fédérale européenne. D'ailleurs, si je vous montre ma carte, il y a écrit Maxime Maury, Banque de France, Eurosystème. Banque de France, Eurosystème. Les deux sont indissociables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à la fois la maman de la BCE. Quand je dis la maman, c'est-à-dire chaque banque centrale nationale qui participe à l'euro, nous sommes 19, détient une part du capital de la BCE et nous en détenons environ 16%. Et en même temps, nous sommes la représentation en France de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire, quand on dit la BCE intervient, etc., en réalité, en France, c'est la Banque de France. C'est la Banque de France pour le compte de la BCE. Donc, nous sommes une institution républicaine, République française et fédérale européenne, les deux en même temps.
Alors, si on parle de l'organisation actuelle de la Banque de France, sur le territoire français en général, dans notre région en particulier, qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Eh bien, nous avons des succursales dans tous les départements. Donc, nous avons 13 succursales départementales en Occitanie, plus deux antennes économiques à Castres-Mazamet et à Béziers, et une direction régionale à Toulouse.
Une petite question, une curiosité, pourquoi des antennes à Castres-Mazamet?
Oh ben simplement, c'est une survivance du passé. Nous avions jusqu'au milieu des années 2000, 221 succursales. Alors nous avons allégé considérablement ce réseau pour nous concentrer sur les départements, donc une succursale par département. Et nous avons encore quelques petites antennes qui s'ajoutent à ces représentations départementales. Nous faisons un effort considérable de réduction de nos coûts. Je tiens à le souligner dès le début de cette émission, puisque nous remplaçons relativement peu les départs à la retraite et nous avons un plan que nous appelons Réseau 2020, Ambition 2020. Et sur la durée de ce plan, nous réduisons nos effectifs d'environ 30%.
Eh bien, merci pour ce petit cours d'histoire et cette présentation très détaillée de l'organisation de la Banque de France. Nous parlerons plus en détail encore dans quelques minutes de ses missions et de ses services, puisqu'est venu le moment de notre rendez-vous avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. Un flash que nous commençons avec une information qui concerne l'aire urbaine toulousaine. Le Premier ministre a dévoilé la liste des territoires d'innovation.
Oui, le projet Villagile porté par Toulouse Métropole, Tisséo, le Sicoval et le PTER Porte de Gascogne a été retenu par l'État dans le cadre d'un appel à projet face à la problématique d'étalement urbain couplé à une croissance démographique importante. Villagile est un projet de long terme à l'horizon 2030 visant à améliorer les conditions de déplacement des populations à travers l'aire urbaine toulousaine. L'objectif est de favoriser l'émergence de nouvelles formes de mobilité et un développement économique durable afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. Le projet Villagile répond à plusieurs enjeux: fluidifier le trafic, décarboner le territoire, faire des mobilités intelligentes un axe de développement économique du territoire et mettre l'habitant, usager et la concertation au cœur du projet. Au total, l'investissement représente près de 165 millions d'euros réalisés avec le concours financier du Grand Plan d'Investissement et la Banque des Territoires.
Et maintenant, un petit rappel à tous les usagers du métro à Toulouse. Les travaux se poursuivent jusqu'en novembre sur la ligne A et donc les interruptions de service aussi.
Effectivement, forte de son succès, la ligne de métro A, mise en service en 1993, ne permet plus de répondre à l'affluence des voyageurs en heure de pointe. Un chantier de modernisation a débuté en 2017 pour améliorer le confort des usagers et la sécurité lors des déplacements. La ligne de métro A offrira en fin d'année une capacité d'accueil de 400 000 voyageurs contre 220 000 aujourd'hui. Le métro propose un service partiel ou est totalement interrompu certains jours jusqu'au mois de novembre, les lundis et mardis jusqu'au 29 octobre entre 20h30 et minuit. La ligne A du métro est totalement interrompue. Plus de renseignements, bien sûr, sur www.iceo.fr.
Et pour finir, toujours dans le domaine des transports aériens cette fois-ci, signalons qu'une enquête publique est en cours jusqu'au 18 octobre 2019. Elle concerne un projet de modification de la circulation aérienne au départ de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Depuis le 23 mai, une modification de la circulation aérienne est expérimentée au départ de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Le projet fait actuellement l'objet d'une enquête publique afin d'informer et de consulter les citoyens impactés. En réflexion, la réduction des nuisances sonores et la limitation de la pollution atmosphérique. Certains habitants ne l'entendent pas de cette oreille. Une pétition est en ligne pour s'opposer à la modification des trajectoires pour les avions lors des décollages en direction du nord-ouest. L'enjeu est de taille vu l'importance du trafic aérien dans le secteur. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est le 6e aéroport français en termes de mouvement.
C'était donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Et puisqu'on parle des travaux de la ligne A du métro, qui représente de gros investissements pour Toulouse Métropole parmi d'autres, est-ce que la Banque de France en Occitanie est amenée à travailler avec la métropole dans ce domaine, que ce soit à titre de conseil ou à titre d'expert, Maxime Maury?
Oui, nous avons un partenariat avec Toulouse Métropole et avec la région Occitanie, c'est-à-dire que nous apportons des expertises. Tout simplement, nous restituons à nos partenaires les données de la Banque de France permettant de jauger le dynamisme de Toulouse Métropole et de la comparer avec son environnement. Alors le résultat est très impressionnant, on est ici dans le record de France de la croissance économique. Je vous donne juste deux chiffres. Montpellier est dynamique aussi, mais si on compare la création de richesses, c'est-à-dire la valeur ajoutée produite par les entreprises, disons que la métropole de Toulouse, hors Airbus, c'est en termes de poids, trois fois Montpellier. Vous voyez, donc ça vous donne une idée de l'importance et on peut même dire que c'est un peu plus que Bordeaux en fait en termes métropolitains, c'est 30% de plus. Donc il y a vraiment un poids économique de Toulouse qui est impressionnant, ce qui ne veut pas dire que le reste ne soit pas dynamique. Ça veut dire que le poids est très très important. Ce n'est pas qu'Airbus Industries, c'est aussi un secteur de l'ingénierie qui ne vit pas que de l'aviation, mais qui vit de nombreuses spécialités, les systèmes embarqués, puis l'informatique, le secteur de la santé, et la création de start-up, puisque je rappelle que Montpellier, Paris et Toulouse, d'abord dans cet ordre-là, Montpellier d'abord, juste après Paris en termes relatifs, et Toulouse battent le record de création de start-up en France.
Eh bien, merci pour ce complément d'information très important qui va flatter sans doute l'orgueil des Toulousains. Et nous allons maintenant poursuivre notre échange autour du thème de ce numéro que nous avons consacré, je le rappelle, aux missions, services et activités de la Banque de France en Occitanie.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropole et vous, la suite avec notre invité Maxime Maury, directeur régional de la Banque de France en Occitanie. Et pour continuer notre discussion sur des bases claires, je vais vous demander de détailler les missions de la Banque de France et les services qu'elle propose au niveau national d'abord, au niveau de la région Occitanie ensuite. Est-ce que ce sont d'ailleurs exactement les mêmes ?
Oui, ce sont les mêmes, bien sûr. Nous avons un siège à Paris et voilà. Simplement, il y a des activités qui sont conduites pour le compte de la BCE exclusivement à Paris. Par exemple, l'intervention sur les marchés. Vous savez que la BCE, quand je dis la BCE, ben, il faut s'habituer à cette idée. C'est les 19 banques centrales nationales qui forment l'eurosystème, interviennent sur les marchés régulièrement pour acheter des titres. Cette intervention doit prendre fin à la fin de l'année. Elle dure depuis le début de 2015. Et nous intervenons à hauteur de 30 milliards d'euros sur les marchés tous les mois pour acheter des titres de dette publique. Eh bien, ça a lieu à Paris. Ça a lieu à Paris et pas à Toulouse. Voilà, bon, mais nous conservons les réserves d'or de la France, nous faisons beaucoup de choses. Donc certaines activités sont à Paris et les autres sont en région.
Alors juste un petit retour historique tout de même. Au moment de la disparition du franc et donc à l'arrivée de l'euro, qu'est-ce que ça a changé pour la Banque de France ?
Mais ça a changé que la monnaie aujourd'hui est gérée dans le cadre européen. Bon, c'est très simple, elle est gérée par l'eurosystème, par la BCE, et chaque banque centrale nationale y participe. Mais en réalité, ça n'a rien changé, parce que, prenons un exemple, qui est un exemple régional, nous trions les billets de banque. Les billets de banque, c'est un peu comme le sang avec le cœur. Le sang afflue vers le cœur, et puis le cœur... l'oxygène et le renvoie dans l'organisme. Bien, c'est exactement ce que nous faisons avec les billets de banque. Nous le faisions avant du temps du franc, nous le faisons aujourd'hui avec l'euro. Donc, ce qui a changé, c'est la fonction d'état-major. L'état-major se trouve à Francfort, les décisions se prennent à Francfort, mais elles se prennent par un collège d'experts auquel participe naturellement le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy. Voilà ce qui a changé, mais le travail de base... se fait toujours dans les banques centrales nationales. Et puis ensuite, nous avons des missions spécifiques de la Banque de France qui découlent, par exemple, la gestion du surendettement des ménages, de missions que nous a données la République française. Et on va en parler maintenant.
Mais justement, ça m'amène à parler des services précis que la Banque de France rend aux particuliers, aux entreprises et à l'État. Quels sont-ils ?
Alors, d'abord, la première des fonctions, c'est la fonction monétaire et c'est la mise en circulation de billets de banque de qualité. Et donc c'est un travail d'oxygénation de la circulation. Je viens de faire à l'instant l'image, la comparaison avec le cœur et le sang. Donc nous faisons ça à Toulouse, nous faisons ça à Montpellier, nous faisons ça à Perpignan, nous faisons ça à Tarbes et nous faisons ça à Rodez. Ça veut dire que nous mettons chaque année en circulation ici en Occitanie 470 millions de coupures qui viennent dans nos caisses et qui en ressortent. Ça me permet de signaler au passage que le billet euro est le billet le plus sûr du monde, le moins contrefait. Est-ce que vous savez que la contrefaçon représente environ 500 000 coupures sur 18 milliards et demi ? Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter. Ça fait 500 sur 18 millions, hein, c'est ça. Donc c'est vraiment
une goutte d'eau.
C'est une goutte d'eau. Donc nous avons un billet de très grande qualité, nous avons un billet très sûr. D'ailleurs, nous contribuons à former les commerçants aux signes de sécurité, puis les forces de police, les forces de gendarmerie, au signe de sécurité de ce billet. Donc ça, c'est notre première fonction, qui est la fonction monétaire. Vous venez de dire les particuliers, les entreprises. Oui, ça résume bien les choses, et je disais aussi des activités d'expertise économique. Alors, les particuliers, là, il s'agit d'une mission que l'État nous a donnée et que nous gérons depuis 1990. Il y a eu 7 lois successives sur le traitement du surendettement des particuliers. Les commissions de surendettement sont départementales, elles sont présidées par les préfets, et la Banque de France en assure le secrétariat, c'est-à-dire le fonctionnement opérationnel. Alors que faisons-nous ? Je vais vous donner un chiffre qui va sans doute vous impressionner. En Occitanie, nous avons retraité plus de 600 millions d'euros de dettes de particuliers. Nous les avons rééchelonnés dans le temps, nous avons abaissé les taux d'intérêt, et à hauteur d'un tiers, c'est-à-dire à peu près 200 millions d'euros, nous avons purement et simplement effacé des dettes. Lorsque les personnes ne peuvent plus s'en sortir, qu'elles n'arrivent plus à faire face à leurs dettes, eh bien, nous intervenons, plus exactement, le préfet intervient avec la commission de surendettement, et le travail est fait par les services de la Banque de France. Nous gérons aussi, vous parlez des particuliers, des fichiers de renseignement qui sont utiles au système bancaire, les crédits particuliers, on appelle ça FICP, le fichier central d'échecs, les chèques perdus ou volés. Bon, ça, ce sont des activités de fichiers où les particuliers peuvent apparaître. Les entreprises, alors, 15 000 dossiers de surendettement, pour donner une idée. C'est plus de 600 millions d'euros, 15 000 dossiers, avec une tendance qui est plus forte dans l'ex-région Languedoc-Roussillon que dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Il faut le relier à la pauvreté. Pour les entreprises, nous donnons une cotation aux entreprises. Nous donnons une cotation à environ 20 000 entreprises dans la région, à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une appréciation que nous portons sur le risque de défaillance à 1 an et à 3 ans. Alors, c'est un modèle extrêmement sophistiqué, mathématique, avec des ratios seuillés, avec la possibilité d'introduire aussi des données qualitatives, la stratégie, et... C'est un cahier des charges que nous avons avec la BCE. Il s'agit de prévoir le risque de défaillance. Et quand la cotation est dite d'excellence, ou éligible dans notre langage, ça veut dire qu'en fait, on peut refinancer la Banque de France et la BCE, c'est la même chose, peuvent refinancer des crédits que les banques ont accordés à ces entreprises. Nous avons aussi des systèmes experts que nous mettons, on appelle ça Géode, que nous mettons à la disposition des entreprises pour les aider à se situer par rapport à leur environnement, faire un diagnostic, faire des prévisions. Et puis nous avons des correspondants TPE, très petites entreprises, dans chacune de nos succursales, dont le but est simplement de recevoir les dirigeants de TPE pour les orienter, les conseiller, parce que dans le fond, les entreprises de demain, les grandes entreprises de demain, ou en tout cas les belles PME de demain, ce sont des TPE d'aujourd'hui. Et l'État, eh bien, la Banque de France est... je vous l'ai dit, est au service de l'État, puisque l'État est son actionnaire. Bon, eh bien, nous essayons tout simplement d'abord d'informer le préfet sur la conjoncture, sur l'évolution du crédit. Depuis 2008, d'ailleurs, l'État a créé des commissions régionales de financement de l'économie dont le but est de s'assurer que le crédit se développe dans des conditions satisfaisantes. C'est la grande crise de 2008 qui a conduit à cette initiative et donc nous nous réunissons régulièrement autour du préfet. Et puis nous participons à toutes les commissions d'expertise liées aux entreprises. Nous avons un spécialiste de la Banque de France qui participe à ces commissions.
Vous avez parlé de la conjoncture économique. La Banque de France Occitanie, quel genre de documents publie-t-elle concernant l'activité économique de notre région ?
Oui, alors d'abord, j'ai omis de dire que nous interrogeons tous les mois 1 millier d'entreprises de la région et chaque année, en début d'année et à mi-année, nous venons de le faire, environ 1400, 1500 entreprises sur leurs prévisions pour l'année. Et nous produisons d'abord un document auquel tout le monde peut accéder, c'est l'enquête mensuelle de conjoncture, nous appelons ça « Tendance régionale ». Vous la trouverez sur www.banquedefrance.fr et d'ailleurs nous adressons à nos informateurs un lien qui leur permet de suivre les évolutions. Et puis chaque année nous publions, et je l'ai là, une petite note que nous appelons « Conjoncture économique en Occitanie » et qui retrace les perspectives de l'année à mi-année selon les entreprises que nous interrogeons.
Alors, quels sont les secteurs concernés ? Il y a des grandes tendances, mais il y a plusieurs lignes sur ce document. Par exemple, la première, c'est l'activité industrielle.
Oui, alors d'abord, en début d'année, les entreprises nous ont dit qu'elles attendaient une croissance de leur chiffre d'affaires de 3%. Eh bien, elles nous disent maintenant qu'elles attendent une croissance de leur chiffre d'affaires de 4,5%. Donc, vous voyez, la région Occitanie n'a pas révisé en baisse les prévisions de croissance, comme c'est le cas au niveau macroéconomique, puisqu'au début de l'année, on attendait une croissance du PIB de plus de 2%.
Absolument.
Maintenant, on est à peine 1,6%. Eh bien, cette tendance ne s'est pas manifestée en Occitanie. Et je commente rapidement les services. En début d'année, on nous disait 4,5%. On nous dit maintenant 4,2, donc un tout petit peu moins, mais vous voyez, c'est à peine un peu moins. Et alors, surtout, la surprise, c'est la construction. En début d'année, on nous disait une croissance des chiffres d'affaires de 5,4 et aujourd'hui, on nous dit 7,2. Donc au total, la région Occitanie a confirmé et a même amplifié les prévisions de croissance de début d'année. Avec cependant un bémol, ce sont les perspectives d'embauche qui sont moins favorables qu'elles n'étaient en début d'année. Enfin, ça confirme que la région est une région de forte croissance, croissance démographique, vous le savez, mais croissance de l'emploi aussi. Les créations nettes d'emplois dans la région sont supérieures à, j'ai le chiffre sous les yeux, c'est 1,6% de croissance de l'emploi salarié par an, contre 1,3% pour le reste de la France. Donc vous voyez, on a quand même une tendance qui reste très favorable en Occitanie. Alors je pourrais confirmer ça avec la croissance du crédit, le crédit aux entreprises qui est supérieur à la moyenne nationale, c'est 6,5% en Occitanie sur un an, contre 6,1% pour la France. Et je pourrais le confirmer aussi avec les crédits d'investissement, plus 7% contre 6,4% pour le reste de la France. Nous sommes dans une région de forte croissance démographique et économique.
Alors les deux sont liés d'ailleurs, parce que si beaucoup de gens veulent venir dans notre région, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver de l'emploi.
Exactement, hein, exactement.
Et pas seulement soleil.
Exactement.
Même si ça joue aussi. L'emploi alors, on pourrait être surpris par le fait que les prévisions de croissance, en tout cas de l'activité industrielle, sont en augmentation par rapport à la dernière prévision, alors que l'emploi lui recule. Qu'est-ce qui peut expliquer ça?
Alors l'emploi ne recule pas, ce sont les prévisions d'embauche qui sont moins favorables qu'elles n'étaient en début d'année. Alors, chacun peut y aller de son explication. D'abord, quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, la France aura créé quand même un peu moins d'emplois en 2018 qu'en 2017. Hein. Donc la tendance nationale est quand même moins favorable qu'elle n'était en 2017. Moi, j'y vois, premièrement, des perspectives de rentabilité des entreprises qui sont moins bonnes qu'elles n'étaient annoncées en début d'année. Deuxièmement, il y a quand même une incertitude internationale. Hein. Bon, d'ailleurs, on a vu, les chiffres de la croissance française ont été révisés en baisse. Il y a une incertitude internationale qui s'est accrue depuis le début de l'année. Et puis, j'y vois surtout la très grande difficulté qu'ont les entreprises à trouver la main-d'œuvre dont elles ont besoin. On entend ça tous les jours,
oui.
Où que l'on aille. Et donc, les entreprises ont tendance à automatiser. C'est-à-dire à investir pour remplacer la main-d'œuvre par des machines parce qu'elles ne trouvent pas de main-d'œuvre. Donc voilà grossièrement les explications que j'ai. Pour autant, l'emploi continue à progresser en Occitanie, hein, je vous disais 1,6%, et avec quand même une tendance à la concentration, les créations se concentrent sur les métropoles, Toulouse et Montpellier, l'Hérault et la Haute-Garonne apportent 80% des créations nettes d'emplois dans la région.
Oui, alors justement, ça m'amène à la question suivante. Comme on pouvait s'y attendre, et vous venez de le confirmer, ce sont les métropoles qui sont les plus grosses pourvoyeuses de la croissance et de la création d'emplois. Qu'est-ce qu'il en est sur le reste du territoire, sur les territoires dits ruraux?
Alors, j'observe, moi, depuis deux ans et demi, une tendance à la diffusion de la croissance dans tous les territoires de la région. Je vous donne juste un chiffre, la croissance des chiffres d'affaires des TPE et PME. Bon, on laisse les grandes entreprises, parce que finalement, la création de richesses et d'emplois vient des TPE et des PME. En Occitanie, depuis un an, c'est 4,8%. Et ce chiffre est positif dans tous les départements, à l'exception d'un département. Pas le citer d'ailleurs. Bon, et avec une tendance moins forte dans le secteur pyrénéen et dans le Gard. Aux deux extrêmes de la région, la tendance est moins forte. Mais elle est positive dans tous les départements, sauf un. Donc il y a quand même une tendance à la diffusion de la croissance.
Est-ce qu'il y a des départements qui se débrouillent entre guillemets mieux que les autres?
Oui, on a une forte croissance dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne. On a une croissance importante aussi dans des départements comme l'Aude et les Pyrénées-Orientales, qui sont pauvres, mais qui sont pauvres et en croissance.
Et dynamique,
oui. Et d'ailleurs, le chômage n'est pas le bon indicateur, parce qu'il y a de fortes créations d'emplois. Et vous pouvez avoir de fortes créations d'emplois et un chômage important. Pourquoi? Parce que vous avez la migration, vous avez les gens qui viennent de l'extérieur, vous l'avez souligné il y a un instant, mais vous avez aussi des réserves, ce qu'on appelle le taux de participation, c'est-à-dire des réserves de personnes qui veulent participer au marché du travail et qui se présentent parce qu'il y a des créations d'emplois. Et donc, paradoxalement, ça peut même faire augmenter le taux de chômage. Et vous avez ensuite une croissance très forte dans la Haute-Garonne, dans l'Hérault. Vous avez même une croissance importante dans la Lozère et une croissance assez substantielle aussi dans l'Aveyron et dans le secteur pyrénéen. La croissance est un peu moins forte dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, mais il y a quand même une croissance qui se manifeste aussi.
Eh bien, nous terminerons sur ces notes qui me semblent pleines d'espoir malgré tout, même si on voit que la réalité est assez contrastée. On en termine maintenant avec la présente émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Maxime Maury. Grâce à toutes les explications que vous avez données, je pense que les auditeurs de Métropolez-vous ont une vision et une connaissance plus claire des missions, des services et des activités de la Banque de France. Il y en a beaucoup, sans doute beaucoup plus que ce qu'imaginent la plupart des citoyens de notre région et de notre pays. Pour en savoir plus et creuser le sujet, la Banque de France a un site www.banque-france.fr et sur ce site, vous trouverez entre autres les chiffres de la région Occitanie que nous avons évoqués au cours de ce numéro à la catégorie statistique, rubrique tendance régionale. Et puis, si vous souhaitez avoir le détail des investissements de Toulouse Métropole secteur par secteur, vous pouvez vous connecter au site www.toulouse-métropole.fr et consulter ensuite la catégorie la métropole, rubrique budget. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.